Les grandes heures de la France par Octave Aubry. Chapitre 11e. Du désordre à l'autorité. La Révolution triomphe. La mort de Louis XVI déchire profondément la France et dresse contre elle toute l'Europe. L'Angleterre, qui voit ses buts dépassés, prend la tête de la coalition et lui ouvre sa caisse. Plutôt que de nous voir demeurer en Belgique où le peuple nous accueillit d'abord en libérateur, elle se jette corps et âme dans la lutte. Pitt, acharné contre nous, annonce que la guerre sera une guerre d'extermination. Lui-même n'en verra pas la fin. Elle va durer 22 ans. Presque aussitôt, sur toutes les frontières, les Français essuient des revers. Dumouriez, vaincu à Neerwinden, est chassé des Pays-Bas. Les Prussiens reprennent la Rhénanie et entrent en Alsace. Les Espagnols occupent Perpignan et Bayonne. Appelés par les royalistes, les Anglais s'emparent de Toulon. Le territoire partout est largement tamé. De nouveau, la route de Paris est ouverte. La Convention, où de plus en plus la Gironde épuise ses forces, où la montagne domine avec Robespierre et Marat, fait face au péril extérieur avec une sombre énergie. Elle ordonne la levée par tirage au sort de 300 000 soldats, décrète la peine de mort contre les émigrés et les prêtres réfractaires. Enfin, elle crée les trois organes célèbres qui doivent sauver par la terreur la République menacée. Comité de salut public, chargé de la défense extérieure et intérieure de l'État, comité de sûreté générale investi de la police, tribunal révolutionnaire pour rechercher, arrêter et condamner les suspects. Ces mesures, mais surtout la réquisition militaire succédant au supplice du roi, ayant régné par elle, c'est par elle qu'il périra. Le comité de salut public, accaparant tous les pouvoirs, gouverne la France. Robespierre, du premier jour, en est le maître. Avec Saint-Just, Collot d'Herbois, Billaud-Varennes, Carnot, Cambon, Barrère, enfermés au pavillon de Flore, il mène jour et nuit une lutte sans merci pour la Révolution contre ses adversaires du dehors et du dedans. Au nom de la patrie en danger, Carnot, ancien officier du génie, devenu chef omnipotent de la guerre, enrôle par la levée en masse à plus de 600 000 hommes, les amalgame aux vieilles troupes et lance aux frontières neuf armées. Des généraux inconnus les commandent dont la plupart sortent du rang. Hoche, Marceau, Jourdan, Moreau, Pichegru, Kléber. Le plus pur de la France est là. Vaincre ou mourir, c'est l'ordre. Et les soldats de l'an II, mal chaussés, mal vêtus, mal armés, mais brûlant d'un feu héroïque, bouscule l'Europe. Jourdan est vainqueur à Batigny, où l'on voit Carnot lui-même chargé à la tête de l'infanterie. Hoche vainqueur à Wissembourg, sous les yeux de Saint-Just. En juin 1793, la France paraissait perdue. 6 mois plus tard, ses frontières sont libres, et c'est elle qui entre chez l'ennemi. Dans le même temps, la Convention triomphe à l'intérieur. Lyon, ayant résisté 2 mois, est puni par une répression sauvage. Fouché et Collot d'Herbois mitraillent les prisonniers par centaines. Toulon est repris aux Anglais après un siège difficile où se fait remarquer pour la première fois un jeune capitaine d'artillerie, Napoléon Bonaparte. Enfin, l'insurrection de la Vendée qui s'est étendue sur 11 départements est étouffée par Kléber et Marceau. Vaincu à Cholet le 17 octobre 1793, les Vendéens sont massacrés au Mans, achevés à Savenay. La terreur. À une situation désespérée, la Convention, ou plutôt le comité de salut public, a fait face par des moyens atroces. C'est l'époque de la Grande Terreur. Chaque jour, après une parodie de jugement, le tribunal révolutionnaire expédie de pleine charrette à l'échafaud. La reine Marie-Antoinette, séparée de ses enfants demeurés au temple et jetée à la conciergerie, est livrée à l'interrogatoire immonde de Fouquier-Tinville, l'accusateur public. Son procès dure 20 heures. La pauvre femme se défend avec courage. Comme Louis XVI a été grand à ses heures suprêmes, la fière, l'éblouissante reine de Versailles et de Trianon se montre admirable de dignité sous ses cheveux blanchis dans la misérable robe de laine noire qu'elle a reprise dans son cachot. Une fin si noble rachète, illumine tout. Elle monte sans faiblesse les degrés de la guillotine et se livre au bourreau dans une sorte de dédaigneuse stupeur. Là, précédait à l'échafaud Charlotte Corday, petite nièce de Corneille, venue de Caen pour assassiner le monstrueux Marat. Les suivent Bailly, l'ancien maire de Paris, le duc d'Orléans, que n'ont pu sauver son nouveau nom de Philippe Égalité, ni son vote de la mort de Louis XVI, enfin les députés girondins qui se sont laissés arrêter. La terreur ne règne pas seulement à Paris. Les commissaires envoyés en province par Robespierre et ses amis rivalisent de zèle. Partout, les têtes tombent dans une confusion affreuse. Prêtres réfractaires, nobles, ouvriers, bourgeois, paysans, femmes de plaisir, saintes religieuses. La France, saoule d'épouvante, se tait devant les saturnales de Lally. Tout ce qu'un peuple peut receler d'écume recouvre le pays. Parmi les montagnards, il en est qui, pourtant, commencent de trouver que la terreur va trop loin. Danton parle du retour à la justice et au règne des lois. Son ami Desmoulins, dans le vieux Cordelier, réclame à côté du comité de salut public un comité de clémence. Héros de Seychelles, Fabre d'Églantine les approuve. On les appelle les indulgents. Il y a aussi les enragés, Hébert, Chaumette, qui veulent encore de plus larges hécatombes. Entre les deux parties, les épiants, Robespierre, mystérieux, attend son heure, puis frappe les uns après les autres. Hébert et sa bande sont arrêtés. Un court procès de forme. Le 24 mars 1794, ils sont guillotinés. Autour de Danton. Le 5 avril, sans qu'il ait pu se défendre, un décret le bâillonne. Il est condamné. Avec lui, monte à l'échafaud Fabre d'Églantine, Camille Desmoulins, héros de Seychelles. « Tu montreras ma tête au peuple !» crie Danton au bourreau. « Elle en vaut la peine !» Robespierre, dictateur. Danton disparu, Robespierre n'a plus de rival. Dans cette convention décapitée, qui oserait se lever pour le contredire? Tous tremblent devant son étroite et glabre silhouette, tous courtisent son sourire mesquin, tous attendent les mots qui, filtrant de ses lèvres pâles, désigneront peut-être, tout à l'heure, tel ou tel de ses amis d'hier pour l'échafaud. Avril, mai, juin, juillet, 4 mois d'absolu, de rigide tyrannie. Il n'a que le titre modeste de membre du comité de salut public, mais par la lâcheté commune, il réunit tous les pouvoirs. Saint-Just, archange taré, qui donnerait 100 000 têtes pour fonder sa république. Le paralytique Couthon, froidement cruel. Lebas, dur et romain, font le cortège et la garde de l'incorruptible. Que veut-il? Où tend-il? Est-il tenté par l'exemple de Cromwell? Espère-t-il consolider sa puissance de fait en un protectorat régulier? C'est probable, encore que nul n'ait déchiffré son énigme. Il semble qu'il se dispose à clore la terreur. En attendant, au nom de la vertu, son inspiratrice, elle redouble. Les prisons regorgent de suspects. Il n'y a plus assez d'échafauds. Les têtes tombent comme des ardoises, dit Fouquier-Tinville, satisfait. C'est alors que se dresse contre Robespierre la coalition de l'effroi. Tous ceux qui se croient promis par lui à une prochaine charrette s'unissent. Fouché et Tallien sont les chefs du complot. Fouché, bourreau de Lyon, qui dissimule une subtile intelligence policière sous un visage de momie. Tallien, gratte-papier et prote, devenu secrétaire de la commune, l'un des meurtriers de septembre. Avec Biot-Varenne, Barras, Carnot, Cambon, Barrère, Collot d'Herbois, Lindet, ils assiègent en secret les députés du centre, les grenouilles du Marais, qu'épouvante la terreur et qui, jusqu'ici prosternés de Robespierre, commencent de regimber contre lui. Ils ramassent les hésitations, les craintes, les convoitises, forment un bataillon compact qui, le jour venu, s'il n'ose se jeter à l'assaut du tyran, saura du moins étouffer sa voix et, par un vote obscur, le précipiter de son piédestal. Le 8 Thermidor, Robespierre paraît à la tribune et réclame de nouvelles proscriptions. La convention s'épouvante et refuse de suivre le dictateur qui, pour la première fois, est mis en échec. La nuit suivante, Robespierre prépare sa revanche. La commune se déclare pour lui et le club des Jacobins qui chasse Biot-Varenne et Collot d'Herbois au cri de « à la guillotine ». Cependant, Tallien, Fouché, Barras visitent les députés du centre, les réconfortent et les adjurent. La chute du tyran. Le 9 Thermidor, le 27 juillet 1794, par une chaleur éprouvante, devant l'assemblée traversée de houle contraire, devant les tribunes où les robespierristes en majorité acclament leur idole, Saint-Just, blême et coupant, commence la lecture du réquisitoire auquel il a travaillé la nuit. Collot d'Herbois, l'un des accusés, lui-même, préside. Tallien, presque aussitôt, interrompt Saint-Just, le pousse hors de la tribune. Brandissant un poignard, il demande la mise en accusation de Robespierre. Celui-ci veut répondre. Collot, puis Turlot, qui l'a remplacé au fauteuil, couvre ses paroles du bruit ininterrompu de la sonnette. Les conjurés crient « À bas le tyran !» Le centre se tait. Dans le brouhaha, on vote l'arrestation de Henriot et de Dumas, saisie de Robespierre, comme coupable de complot contre la Convention. L'incorruptible essaye en vain de se faire entendre. La tribune lui est interdite par les forcenés. À la fin, il jette un cri de rage. « Président d'assassins, pour la dernière fois, je te demande la parole !» Une insultante clameur lui répond. Alors la voix rauque, il se tourne vers le centre. « Homme pur, c'est à vous que j'ai recours. Donnez-moi la parole !» Le marais le voit perdu et se détourne. Tentant encore de dominer le tumulte, il ouvre la bouche, paraît suffoqué. « C'est le sang de Danton qui t'étouffe !» lui crie-t-on. Les mains tendues, il va du centre à la droite, trébuchant. « N'avance pas !» dit Fréron. « C'est ici que s'asseyaient Vergniaud et Condorcet !» Le dictateur retombe sur un banc. Biot-Varenne réclame son arrestation. Augustin Robespierre, le bas, dans sa noblesse, demande d'être associé au sort de Maximilien. On leur adjoint Saint-Just et Couthon. À 5 heures, des gendarmes mettent la main au collet des accusés qui sont conduits au Luxembourg. La commune, dès qu'elle apprend la nouvelle, se déclare en insurrection. Le tocsin sonne. Le maire, Fleuriot Lescot, fait enlever Robespierre et ses amis, qui, en triomphe, entrent à l'hôtel de ville. Fleuriot signe la mise hors la loi de Collot. Fréron, Fouché, Barras, Carnot, Tallien et 8 autres députés ennemis du peuple. La commune compte sur la rue pour assaillir la Convention. Mais dans cette course mortelle, tandis que Robespierre, procédurier d'abord, hésite, perd du temps, qu'une énorme foule sans chef erre autour du palais municipal, les commissaires de l'Assemblée, éperonnés par le danger, agissent, eux, vite et sans forme. Devant les Tuileries, ils réunissent une masse sûre de gendarmes et de gardes nationaux. À 2 heures de la nuit, ces troupes, commandées par Barras, arrivent place de Grève, face à l'hôtel de ville. Sans trouver de résistance, elles envahissent la maison commune. Robespierre tente de se suicider. Il se fait sauter la mâchoire d'un coup de pistolet. Le bas se tue. Les autres se laissent arrêter. Robespierre, sanglant, défiguré, vivant encore, demeure gisant une partie du jour suivant sur la table du comité de salut public. De là, on le dirige avec ses complices au tribunal révolutionnaire qui se contente de vérifier leur identité. Fouquier-Tinville, tremblant, envoie ses maîtres à la guillotine. À 7 heures, dans un poudroiement de soleil, après un très lent parcours, sous les injures de la populace qui leur reproche le sang qu'elle a demandé, ils arrivent à la place de la Révolution. Couthon meurt le premier, puis Saint-Just. Robespierre monte à l'échafaud le 20e. Quand on lui présente sa tête, le peuple rugit de joie. Il croit la terreur morte et la Révolution finie. Le Directoire et Bonaparte. 15 mois encore, la Convention garde le pouvoir. Souillée de tant de boue et de sang, elle s'auréole pourtant d'éclatantes victoires. Pichegru, à la poursuite des Anglais, conquiert la Hollande. Jourdan bat les Autrichiens et les rejette au-delà du Rhin. L'Europe hélas, découragée. La Toscane, puis la Hollande, font la paix. Le roi de Prusse signe le traité de Bâle, en avril 1795, qui nous laisse nos conquêtes. Le roi d'Espagne l'imite en juillet. Ce Bourbon reconnaît la République qui entre ainsi tête haute dans le concert européen. La Convention expirant triomphe, le 13 Vendémiaire, d'un ultime assaut des royalistes. Un général, encore presque inconnu, l'a sauvé. Bonaparte s'ouvre ainsi l'avenir. 3 semaines plus tard, le 4 Brumaire, soit le 26 octobre 1795, la fameuse Assemblée déclare sa session close. Elle a, pendant 3 ans, exercé un pouvoir si fort qu'au moment où elle va entrer dans le passé, Même ses ennemis ont compris, dit Thiébaut, que quelque chose de grand s'en allait et que la scène allait paraître vide. Le plus grand titre de la Convention, sa vraie excuse aux yeux de la France, sera toujours de l'avoir défendue contre l'invasion avec une énergie, une audace, une foi qui ont assuré la victoire. La Convention, déchirée par la haine et la mort, s'élevait devant l'Europe et l'a forcée de reculer. Elle a insufflé à ses jeunes soldats encadrés par les vétérans de l'Ancien Régime une abnégation, un enthousiasme si pur, si fort, que les meilleures armées ont pâli devant eux. Le royaliste Berryer disait beaucoup plus tard, en 1825, devant de farouches adversaires de la Révolution, « Je n'oublierai jamais que la Convention a sauvé mon pays. » Né de la lassitude d'une assemblée exsangue, le nouveau gouvernement, qui reçoit le nom de Directoire, sera faible et corrompu. 4 années, il se traîne d'intrigues en émeute, et pourtant, lui aussi remporte d'éclatants succès militaires. La guerre continue avec l'Autriche. Carnot, depuis longtemps, a dressé un plan de campagne simple et hardi. 2 armées, conduites par Jourdan et Moreau, entreront en Allemagne et descendront le Danube, tandis qu'une autre avancera par l'Italie et les rejoindra aux abords de Vienne. Celle-ci est confiée au général Bonaparte. Bonaparte n'a pas encore 27 ans. Né à Ajaccio au lendemain de l'annexion de la Corse, il a été boursier du roi à Brienne. Reçu à l'école militaire de Paris, il apprend son métier d'artilleur à Valence et à Auxonne. On le trouve capitaine au siège de Toulon, où pour la première fois son nom est prononcé. Il est alors lié avec Augustin Robespierre, frère cadet de l'incorruptible, et ses sentiments sont jacobins. Sa jeunesse pauvre et solitaire, son culte pour Rousseau, son mépris pour la faiblesse de Louis XVI, l'ont porté aux opinions extrêmes. Nommé général de brigade en Vendée, il refuse ce poste et est mis en retrait d'emploi. Barras le tire de l'ombre aux 13 Vendémiaires. Son mariage avec Joséphine de Beauharnais, ancienne amie du directeur, lui fait obtenir l'armée d'Italie. Au regard de chefs militaires tels que Hoche, Marceau, Jourdan, Masséna, Kléber, il n'a guère de prestige. L'armée voit en lui un général de rue, qui doit tout à la politique. Mais dès le premier jour, il écrase, le mot est de Dogereau, les officiers électrisent les soldats. Vous n'avez, dit-il à ceux-ci dans sa première proclamation, ni souliers, ni habits, ni chemises, et nos magasins sont vides. Ceux de l'ennemi regorgent de tout. C'est à vous de les conquérir. Vous le voulez, vous le pouvez, partons. Cette campagne n'a pas de précédent dans l'art militaire. Passant la frontière, Bonaparte sépare à Montenotte les Autrichiens des Piémontais, poursuit ces derniers et force le roi de Sardaigne à signer l'armistice de Cherasco qui cède à la France Nice et la Savoie. Se retournant alors contre le principal adversaire, il enfonce les Autrichiens au pont de Lodi et les chasse de la Lombardie. Le cabinet de Vienne envoie successivement contre lui en 6 mois 4 armées commandées par ses meilleurs généraux. Il bat Würmser à Castiglione et à Bassano. Il bat Alvinzi à Arcole et à Rivoli. Mantoue prise, Bonaparte arrive au Semmering à 20 lieues de Vienne. L'Autriche alors se résigne à traiter. Les préliminaires de Leoben, qui seront ratifiés à Campo Formio le 17 octobre 1797, reconnaissent à la France la rive gauche du Rhin et abandonne la Lombardie, érigée en République cisalpine. Nous n'avons plus qu'une ennemie, l'Angleterre. Encore hésite-t-elle, ébranlée par l'abandon de tous ses alliés. Des pourparlers, bientôt rompus, ont été entamés à Lille. Pour l'obliger à céder, Bonaparte propose d'aller couper en Égypte la route des Indes. Enivré par le souvenir d'Alexandre, il pense que les grands noms ne se font qu'en Orient. Les directeurs, enchantés de le voir s'éloigner, approuvent son projet. Une année, il s'enfonce dans les sables, toujours vainqueur, toujours voyant sa proie lui échapper. La France, de nouveau envahie par l'Europe, Bonaparte s'enfuit de sa conquête devenue sa prison. Lorsqu'il arrive à Paris, il est décidé à s'emparer du pouvoir. Par ses frères, par Talleyrand, devenu ministre des Relations extérieures, il sait le discrédit du gouvernement. L'enthousiasme qui accueille son retour, pourtant irrégulier, presque coupable, lui montre qu'il est le maître de tout entreprendre. La France l'attend, elle est prête à se donner à lui. Lasse de l'anarchie, elle ne croit plus à la liberté. Assez de sang et de misère, elle veut de l'ordre, et non plus des jours, mais des années de paix. Elle ne croit pouvoir les tenir que des mains d'un grand soldat. Retour à l'autorité. Le 18 Brumaire, les conseils, c'est-à-dire les assemblées, sont transférés à Saint-Cloud. Bonaparte reçoit le commandement de l'armée de Paris. Sur les 5 directeurs, 2, Sieyès et Roger Ducos, sont gagnés au coup d'État. Barras, mi-effrayé, mi-acheté par Talleyrand, s'enfuit. Ses collègues, Goyer et Moulin, qui font mine de résister, sont enfermés au Luxembourg. Le lendemain, 19 Brumaire, à Saint-Cloud, Bonaparte paraît devant les 500. Accueilli par une hostilité imprévue, malhabile à la parole devant une assemblée, il perd contenance. Seul l'audace de son frère Lucien, président des 500, le sauve. Sautant à cheval près du général, il exhorte les troupes hésitantes et leur donne l'ordre de chasser de leur salle les 500. Les grenadiers obéissent. Cette même nuit, le peu qui reste des conseils nomme 3 consuls provisoires, Bonaparte, Sieyès et Roger Ducos, qui doivent remplacer le directoire et préparer une nouvelle constitution. L'ère du désordre éclose, sur les ruines entassées par la Révolution, Bonaparte va fonder une France nouvelle. Les 4 années et demie du consulat, du 11 novembre 1799 au 18 mai 1804, sont les plus belles peut-être de notre histoire. Le pays, ranimé, se lève du fumier de Job devant une Europe que de nouvelles victoires obligent enfin au respect. Réorganisation politique et administrative, paix religieuse, réveil de l'économie nationale, voilà pour le dedans. Au dehors, la force et la gloire. Il faut remonter à la genèse de Louis XIV pour trouver un tel renouveau de sève et un tel éclat. À son avènement, on ne connaît chez Bonaparte que l'homme de guerre. Il va montrer que son intelligence réaliste, son exceptionnelle capacité de travail, s'applique aussi bien aux affaires. Il écarte le nuageux projet de constitution élaboré par Sieyès et impose le sien qui, sous le nom de premier consul, lui donne tous les pouvoirs pour 10 ans. Le droit de suffrage du peuple est soigneusement filtré et les 4 organes législatifs, conseil d'État, tribunat, corps législatif, sénat, par leur complexité même, ne sont plus que des corps dépendants à qui l'initiative est interdite. La constitution de l'an 8 est monarchique. Le premier consul est plus absolu que ne l'a été aucun roi. La démagogie ne saurait mener qu'à la tyrannie. Cette constitution est annoncée par une proclamation des consuls. Bonaparte en est le principal rédacteur. Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé. Elle est finie. Peu après, le gouvernement définit son programme : rendre la République chère aux citoyens, respectable aux étrangers, formidable aux ennemis. Réorganisant l'administration, Bonaparte la centralise d'une manière systématique et, l'expérience devait le montrer, excessive. Tout dépend de Paris, qui nomme et révoque. Dans l'ordre financier, le consulat garde les impôts antérieurs. Pour faciliter la renaissance du crédit, il crée la Banque de France, qui escomptera les effets de commerce et émettra une monnaie de papier garantie par une réserve d'or et d'argent. Le ministère dont s'entoure Bonaparte et où entrent des hommes aussi divers d'opinion que Carnot et Talleyrand, Lucien et Fouché, De Crès et Godin, illustre le souci du premier consul de fondre tous les partis. Il ne veut plus de jacobins, de modérés, de royalistes, seulement des Français. C'est, transposé, rajeuni, le mot du chancelier de l'hôpital. Il dit peu après Brumaire, « Gouverner pour un parti, c'est se mettre tôt ou tard sous sa dépendance. On ne m'y prendra pas, je suis national. » National, il l'est en effet, et à l'extrême. La France le comprend. Il tire de son assentiment le meilleur de sa force. La pacification des esprits, son idée maîtresse, il la couronne en rétablissant avec solennité le culte catholique. Le Concordat, signé en juillet 1801, reproduit dans ses termes essentiels le vieux concordat de François Ier. Le pape renonce à toute revendication des biens d'Église devenus biens nationaux. En retour, évêques et curés recevront un traitement de l'État. Les évêques seront nommés après accord entre le gouvernement et le Saint-Siège. Le clergé tout entier est ainsi placé dans la dépendance du pouvoir exécutif. Le concordat vaudra à la France près d'un siècle de paix religieuse. L'Angleterre poursuit la guerre. La Russie ayant abandonné la coalition, seule demeure en guerre l'Angleterre et l'Autriche. Bonaparte leur offre la paix. La guerre, qui depuis 8 ans ravage les 4 parties du monde, écrit-il au roi d'Angleterre, doit-elle être éternelle? N'est-il donc aucun moyen de s'entendre? Comment les 2 nations les plus éclairées de l'Europe, puissantes et fortes plus que ne l'exigent leur sûreté et leur indépendance, ne sentent-elles pas que la paix est le premier des besoins comme la première des gloires? À ce noble appel, Pitt répond en exigeant d'abord le rétablissement du frère de Louis XVI. Vienne limite, Bonaparte hausse les épaules et se prépare à combattre. Les Autrichiens nous menacent devant Strasbourg et Vernis. Bonaparte donne 100 000 hommes de bonnes troupes à Moreau, qui par le sud de l'Alsace gagne Bâle et franchit le Rhin, tandis que le premier consul, à la tête d'une armée de réserve, passe les Alpes au Grand Saint-Bernard. Tombant de Lombardie sur le dos des Autrichiens, Bonaparte les coupe de leur base. Mais hélas, le général autrichien se retourne et l'attaque à Marengo. La bataille est d'abord perdue. Après 10 heures d'une lutte ardente, Bonaparte va commander la retraite quand Desaix accourt avec des troupes fraîches. Les Autrichiens se découragent. Desaix est tué, mais la victoire demeure aux Français. Mélas demande un armistice qui devient la paix de Lunéville après les victoires de Moreau en Allemagne. La France reste maîtresse de l'Italie. Cette paix est la plus glorieuse qu'ait conclue la France. L'Angleterre elle-même paraît fléchir. Elle nous a chassés d'Égypte peu après avoir fait assassiner Kléber. Elle a pris nos colonies, mais son peuple, écrasé de taxes, est mécontent. Quand le premier consul réunit à Boulogne une flotte en vue d'un débarquement, la peur agit à Londres. L'irréconciliable Pitt tombe du ministère. Son successeur Addington ne tarde pas à entamer des pourparlers. Ils aboutissent au traité d'Amiens, signé le 25 mars 1802 par Joseph Bonaparte, frère aîné du consul. Pour la première fois depuis la Révolution, la paix est rétablie dans toute l'Europe. L'Angleterre reconnaît la République. Elle nous rend nos colonies, promet d'évacuer Malte et l'Égypte. Est-ce donc vraiment la paix? Les 2 peuples, naïfs, s'en réjouissent. Mais dans l'esprit de l'oligarchie britannique, la guerre ne doit finir que lorsque la France aura été vaincue. Encore 1 an, et le grand duel recommencera.